what comes to mind.
What do you want?
We have to make choices.
You have to choose.
Which one is the right one? What do you want?
It's not that simple.
What do you want?
Make your choice.
Bienvenue sur Le Choix de Marie, le podcast ciné qui vous donne tout simplement des idées de films à regarder. Sans spoiler ni prétention, je partage chaque semaine avec vous les films que j'ai vus pour faciliter votre dilemme du « on regarde quoi ?»
Hello à tous et Happy Oscar Sunday, c'est un de mes jours préférés de l'année. J'enregistre cet épisode le matin même avant de me mettre en cuisine pour préparer les petites choses à manger pour ce soir. Très excitée, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet chaque année, mais vraiment je suis à fond dedans. La semaine a été assez chargée et du coup pas très remplie de films, surtout des séances rattrapage, mais j'ai eu une excellente nouvelle. J'ai eu mon visa, donc c'est enfin la fin du calvaire de l'attente dans lequel je vivais et c'est pour ça que la semaine a été riche en émotions, mais pauvre en films. On ne parle que de deux titres du coup dans cet épisode, un drame pour commencer Mélancolia et un film de guerre Requiem pour un massacre. La semaine a commencé mardi, j'ai réalisé que Mélancolia, de Lars von Trier était sur Netflix aux États-Unis, donc je me suis lancée dedans. Film de 2011 que j'avais loupé en salle, probablement parce que j'étais trop occupée à faire la fête à l'époque. Il a fait pas mal parler de lui, notamment au moment de sa sortie, lorsque Kirsten Dunst a reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour ce film. À l'occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception dans la maison de sa sœur et de son beau-frère. Pendant ce temps, la planète Mélancolia se dirige lentement vers la Terre. Une chose est sûre, ce film a divisé, comme souvent avec Lars von Trier. Je suis un peu partagée personnellement, mais c'est toutefois le positif qui l'emporte, je dirais. Un vrai sens de la mise en scène, des choix très audacieux, quelques très grands moments. Je suis plutôt rentrée dedans et j'ai vraiment été en immersion dans l'histoire qui est assez originale, je trouve, et surtout organisée en deux parties distinctes. On retrouve beaucoup de festen, mais aussi un étrange sentiment de calme dans la deuxième partie, malgré le contexte. Et je trouve que c'est bien le but du réal qui se ressent dans ce film, parce qu'il paraît qu'il l'a écrit en pleine dépression, avec l'idée que les personnes mélancoliques ont tendance à être beaucoup plus sereines lorsque un événement catastrophique survient. Après, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? J'irai peut-être pas jusque-là. On sent que le réalisateur aime bien se regarder filmer et je trouve qu'on s'ennuie quand même parfois un petit peu devant. C'est longuet. Par ailleurs, autant je trouve que le personnage de Justine est vraiment très très bien fait et super réaliste, mais j'ai trouvé que Claire était beaucoup moins crédible. Il n'empêche que le réalisateur parvient vraiment à mettre le doigt sur des aspects intéressants de la psyché humaine, notamment dans ses rapports à l'altérité et à la mort. Et il y a aussi, je trouve, une beauté indéniable dans les visuels. J'adore sa façon de tourner et c'est encore vraiment choquant ici à quel point il arrive à maîtriser sa caméra. Niveau cast, il y a un défilé d'acteurs qui sont tous formidables. Ça, c'est un des gros points forts du film. John Hurt, aussi génial en vieux cabotin que Charlotte Rampling en vieille mégère. Kirsten Dunst, du coup, dont on parlait, qui est remarquable et tellement à contre-emploi par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle paraît si fragile mais aussi si forte, c'est vraiment un prix d'interprétation qui est pas volé. Charlotte Gainsbourg, je l'aime moins, elle joue le personnage de Claire, du coup de la sœur, elle joue un peu toujours ce qu'elle joue, un peu toujours. Sans oublier également Kiefer Sutherland, tout aussi génial, qui était à l'époque plus à son heure de gloire avec la série 24 heures chrono. Brady Corbett aussi, Alex et Stellan Skarsgård dans la première partie, qui sont des personnages un peu moins centraux, mais qui font vraiment plaisir à voir. Je trouve qu'il y a vraiment eu un investissement de ouf sur le cast et ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est pas un sans faute, mais c'est une très belle expérience de cinéma, Mélancolia, esthétique, suggestive, psychologique. J'ai vraiment trouvé ça dans l'ensemble assez envoûtant comme film, malgré quelques longueurs. Mélancolia est dispo en VOD en France sur Orange, Filmo TV, Canal, la Cinéthèque ou Universciné. Deuxième et dernier film de la semaine, c'était un DVD loué il y a un moment, mais qu'on ne cessait de repousser à regarder en raison de la nature plombante du film. On savait qu'on allait se lancer dans un truc lourd. Come and See, Va et Regarde ou encore Requiem pour un massacre. Trois titres différents pour parler du même film de 1985 de Elem Klimov. Il s'agit d'une œuvre culte qui est connue pour son caractère dérangeant et violent, souvent considéré comme l'un des films de guerre les plus efficaces qui existent. En 1943, en Biélorussie, un jeune villageois, Fliora, déterre le fusil d'un soldat mort et s'engage chez les partisans contre l'envahisseur allemand. Avec l'énergie et l'idéalisme d'un enfant, il plonge dans l'horreur d'un monde qui dépasse les adultes eux-mêmes.
Entre errance et combat, Fliora devient le témoin de toutes les horreurs de la guerre. Bon, il n'y a vraiment pas mille façons de le dire, ce film est un chef-d'œuvre absolu, un véritable cauchemar éveillé. On est vraiment à des années-lumière de l'imagerie héroïque et équivoque du commun des films de guerre. Parce que, avouons-le, même quand ces films montrent des choses terribles, on kiffe quand même les films de guerre et on prend du plaisir un peu à les regarder parce qu'on peut choisir un camp auquel se rallier. Ici, c'est un enfer de A à Z et pour tout le monde. C'est un film qui est extrêmement dérangeant, qui témoigne de l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale. Le film le plus anti-guerre et le plus efficace que j'ai vu, je crois. Il sert d'essai profondément pacifiste qui démontre l'absurdité et l'horreur de la guerre par les faits, par des images qui sont insoutenables. La mise en scène est parfaite. La guerre, elle est ramenée à ses définitions la plus banale et descriptive, un enfer sur terre. Et on passe en revue des victimes dont on suit la vie, qui est brisée à jamais, traumatisée par des événements qui sont inhumains. C'est vraiment insoutenable à regarder. Il y a des scènes qui m'ont marquée et j'étais vraiment rassurée quand ça s'est fini, tellement le film m'a donné la nausée. J'ai eu besoin de prendre plusieurs respirations à la fin parce que je me sentais pas bien. Ça fait partie de ces films qu'on va pas oublier de sitôt. Et je pense que certaines images vont vraiment rester gravées dans ma mémoire, ce qui est un sentiment quand même assez rare. Formidablement interprété, le jeune Alexei Kravchenko est incroyable. Déjà, sa tête, elle est assez déroutante de base, mais j'arrive pas du tout à comprendre comment on peut avoir un tel niveau de maturité artistique à son âge. C'est une des meilleures performances d'acteur enfant que j'ai jamais vue. C'était absolument bluffant. On a aussi la jeune Olga Mironova, qui a un visage qu'on n'est pas prêt d'oublier également. Je trouve qu'en fait, il a réussi à caster des faciès qui sont uniques et à les filmer de manière à transposer parfaitement les horreurs de la guerre dans leur visage. Voilà, un véritable chef-d'œuvre. C'est magnifiquement photographié, c'est dirigé de main de maître, ce Requiem pour un massacre. Après, ça reste un film, vous l'entendez, qui est vraiment dur à regarder et qui, je pense, peut vraiment traumatiser par sa violence. Mais cette violence, elle est beaucoup plus induite que montrée, je dois le préciser. C'est pas comme si on voyait des choses horrible, du sang partout, mais juste, je sais pas, ça prend au cœur la façon, autant dans la façon dont c'est filmé que dans ce qui est décrit à l'écran. Voilà, très très dur comme film, donc je vous laisse juge de si vous avez envie de vous y essayer ou pas. En tout cas, j'étais personnellement très heureuse de découvrir enfin cette œuvre majeure du cinéma russe. Il est dispo sur Rakuten et la Cinéthèque en VOD, à l'achat ou à la location si vous voulez le voir. Voilà pour cette semaine un peu courte. Ça fait du bien aussi, je trouve, un peu de prendre le temps parfois de voir des classiques. Faut avouer que c'est assez pauvre aussi en ce moment au cinéma, donc c'est cool de prendre le temps de découvrir certaines de nos lacunes de cinéphiles. Quoi qu'il en soit, nous sommes maintenant à 6h des Oscars, j'ai un milliard de trucs à faire et je dois donc m'y mettre. Inutile de dire que je suis surexcitée et que j'ai hâte de voir qui seront les grands gagnants. On en parle sur les réseaux sociaux, écrivez-moi s'il vous plaît pour me donner vos pronostics et vos ressentis à l'annonce des résultats. Autrement, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode du Choix de Marie. Merci de votre écoute et à très vite.